Parmi les besoins essentiels de l'homme, il faut écrire en tête de liste l'eau, puis la nourriture. Mais presque aussi important est la nécessité de trouver un abri, une protection contre les éléments naturels et les prédateurs, qu'ils soient animaux ou d'autres êtres humains. Pour cette raison, nous avons en France des châteaux forts un peu partout, et ils sont presque toujours construits sur une hauteur car beaucoup plus facile à défendre que au fond d'une vallée. Les villes antiques sont souvent ceinturées de murailles pour mieux se protéger contre un ennemi éventuel, et les châteaux forts sont en plus entourés de douves. C'était aussi le cas de Ninive, capitale des Assyriens. Mais d'autres villes puissantes n'ont pas besoin de fortifications, en théorie du moins, parce qu'elles sont construites sur un croisement de masses d'eau. C'est le cas de Thèbes en Égypte, qui est comme un îlot au milieu d'une mer. À cause de cette situation géographique et de ses puissants alliés, cette capitale se croit à l'abri de tout danger. Je continue de lire dans le chapitre 3 du livre de Nahum. Es-tu plus prospère, fort et nombreux que Noamon, qui était assise au milieu des fleuves, entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille? Nahum s'adresse à Ninive et la compare à Noamon, un nom égyptien de la ville de Thèbes, un mot qui signifie « maison d'Amon », une divinité particulièrement prisée qui est représentée avec un corps d'homme et une tête de bélier. Capitale de la Haute-Égypte et située à 400 km au sud du Caire, la ville antique de Thèbes est la résidence principale des pharaons les plus glorieux, et en particulier de Ramsès XI de la 19e dynastie. Sur la grandeur de Thèbes, Dominique Vivant, baron de nom, égyptologue et muséologue, avant l'heure écrit, on ne peut croire, même pas après l'avoir vu, à la réalité de l'existence de tant de constructions réunies sur un même point, à leur dimension, à la constante obstinée qu'ont exigé leur fabrication, aux dépenses incalculables de tant de somptuosité. Thèbes est construite sur les deux bords du Nil. Les habitations des vivants se trouvent sur la rive est, de la part et d'autres des canaux processionnels qui relient les enceintes de Karnak au temple de Luxor. Ces voies sont empruntées par les barques sacrées du dieu Amon. Sur la rive ouest, la rive des morts, sont construits les tombeaux royaux, demeures d'éternité des pharaons, ainsi que leur temple funéraire appelé Château des millions d'années, que le dieu Amon vient visiter chaque année lors de la fête de la vallée. Comme je l'ai dit, Thèbes n'a jamais été entourée de murailles parce que le Nil et les canaux forment une masse d'eau qui offre une défense suffisante. Ville réputée imprenable, elle est néanmoins dévastée par le roi assyrien Assurbanipal. En conquérant, qui se respecte, il emporte tous ses immenses trésors accumulés au fil des siècles et dépouille ses sanctuaires des statues divines, les dépossédant ainsi de leur élément vital. Même après avoir été restaurée par les pharaons des dernières dynasties, la ville de Thèbes ne s'est jamais complètement remise de cette invasion. Alexandre le Grand participe également à l'œuvre réparatrice, puis à sa suite la dynastie grecque des Ptolémées. À l'époque romaine, les temples sont peu à peu abandonnés, une garnison militaire s'établit à Luxor, dont le temple est finalement transformé en forteresse. Après la conversion officielle de l'Empire romain au christianisme, plusieurs églises s'y installent, et avec l'arrivée des musulmans, une mosquée y est construite. Tant et si bien que le temple de Luxor reste l'un des lieux de culte et de prière les plus anciens du monde. Le jugement de Thèbes est prédit par les prophètes Jérémie et Ézéchiel, et aujourd'hui les ruines de cette ville idolâtre s'étendent sur plus de 40 km. Tout ça pour dire que la prophétie de Nahum annonce que Ninive n'est pas dans une situation plus favorable que Thèbes, car elle aussi sera entièrement détruite. Je continue le texte. L'Éthiopie et l'Égypte constituaient sa force, qui était sans limite. Les habitants de Pout et ceux de la Libye faisaient partie de ses alliés. Alors que Ninive ne possède pas d'alliés, Thèbes en avait tout autour du ventre, pour ainsi dire, et littéralement, car l'Éthiopie d'antan, que mentionne Nahum, englobe alors le Soudan actuel, la moitié sud de l'Égypte et le nord de l'Éthiopie actuelle. Avec l'Égypte proprement dite, cet immense territoire constitue le royaume d'Égypte. Le second allié, Pout, représente la côte est de l'Égypte jusqu'à la Somalie d'aujourd'hui et comprend peut-être aussi une partie de l'Arabie. Quant au troisième allié, la Libye, il se trouve à l'ouest de l'Égypte. Tout ce beau monde, du sud au nord et de l'est à l'ouest, représente un peuple immense et une puissance militaire énorme. Et pourtant, Thèbes fut mise à sac par les Assyriens. Je continue. Et pourtant, elle aussi est partie en exil, oui, elle a été déportée et ses petits-enfants ont été écrasés au sommet des rues. On a tiré au sort ses hommes les plus nobles pour les réduire en esclavage. On a chargé de chaînes ceux qui gouvernaient tout le peuple. Malgré sa position stratégique exceptionnelle et ses nombreux alliés, Thèbes fut investie par les armées assyriennes. Alors, qu'est-ce qui ferait croire à Ninive qu'elle résistera mieux à une invasion ennemie? Quand Nahum écrit son oracle contre Ninive, la chute de Thèbes doit encore être dans les mémoires, surtout que, sous le siège du roi Assurbanipal, les Assyriens ont attaqué Thèbes à deux reprises. La première fois, ce fut une invasion partielle, mais un massacre tout de même. La seconde fois, Assurbanipal lui-même écrit « Urdamanet monta sur le trône de Tiraka et régna sur le pays. Il fortifia Nob. » Et il assembla ses forces. Il fit sortir ses troupes contre mon armée. Puis, il lui livra bataille, et il se mit en marche, se confiant en Azur, Sin et les grands dieux. Mes seigneurs, les soldats assyriens, le défirent dans une bataille dans un vaste désert, et ils battirent ses troupes. Ils les poursuivirent pendant 1 mois et 10 jours par des sentiers impraticables. Ils s'emparèrent de cette ville dans toute son étendue, et semblable à un ouragan, ils la bouleversèrent. Avec reconnaissance aux divinités Assur et Ishtar de toute la ville de Thèbes, mes mains prirent l'entière possession de l'or, de l'argent, poussière de leur pays, des objets de fonte, des objets précieux, le trésor du palais, des vêtements, de grands chevaux, des hommes, des femmes, en nombre infini. Les soldats les emmenèrent et les firent prisonniers. Ils les transportèrent sains et saufs à Ninive, ma résidence, et ils baisèrent mes pieds. Nahum décrit brièvement le traitement habituel infligé aux villes prises lors d'une conquête, et qui sont villes incendiées, massacre des jeunes gens, jeunes femmes violées, femmes enceintes éventrées. C'est féroce, sauvage, barbare et sanguinaire. Dans les villes antiques, les rues convergent sur une place publique. C'est là qu'on amène les enfants et qu'on les massacre tous ensemble sous les yeux d'un plus grand nombre de personnes pour les terroriser et les intimider, afin qu'ils n'essaient pas de se rebeller contre les vainqueurs, mais leur restent soumis. Par la même occasion, cette tuerie qui est organisée de façon systématique permet de supprimer une future génération d'hommes et de femmes qui plus tard auraient pu vouloir se venger. Les nobles deviennent les esclaves des vainqueurs qui les tirent au sort pour se les partager. Puis ceux qui sont encore debout après tout ça sont emmenés en captivité, le plus souvent encordés. Pour cela, on perce les lèvres des prisonniers et on leur affixe un anneau, à l'intérieur duquel on passe la corde qui est tirée par un soldat. Je continue le texte. « Toi aussi, à ton tour, tu seras enivré, tu devras te cacher, toi aussi tu devras chercher à t'abriter contre tes ennemis. » Nahum interpelle directement Ninive, comme s'il s'agissait d'une personne à qui on peut adresser la parole. Tout comme Thèbes, qui a été puni à cause de son idolâtrie, Ninive devra boire la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie. C'est aussi ce que l'Éternel dit à d'autres nations comme Édom et à tous les peuples de la terre, ce qui aura lieu à la fin des temps et qui est décrit en détail dans le livre de l'Apocalypse. Je lis deux passages des prophètes Abdias et Jérémie, respectivement. Le jour où l'Éternel jugera tous les peuples se rapproche à grands pas, et l'on te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. Vous avez bu la coupe de l'orgie sur ma sainte montagne. De même, toutes les nations ne cesseront de boire la coupe de colère. Oui, elles la boiront, elles l'avaleront, et puis seront anéanties. Car voici ce que m'a déclaré l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main la coupe du vin de la colère et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. La métaphore de l'enivrement qu'utilise Nahum et qui consiste à être obligé de boire la coupe de la colère de Dieu décrit une calamité sans précédent qui va tellement terroriser les habitants de l'Empire assyrien qu'ils en tituberont. De plus, et comme je l'ai déjà dit, on sait que les soldats chargés de défendre Ninive assiégée étaient à moitié ivres lors de l'assaut par les Mèdes, Babyloniens et les Sides, qui ont réussi à prendre la ville. Il faut aussi rappeler que les attaquants ont bénéficié de la pluie de Dieu qui, au bon moment, a envoyé des pluies diluviennes pour grossir le fleuve Tigre qui se jette alors contre les fortifications côté nord et les détruisent sur environ 3 kilomètres. Nahum dit aussi à Ninive, toujours personnifiée, qu'elle devra se cacher. Littéralement, tu seras caché. Et effectivement, les ruines de cette grande capitale n'ont commencé à révéler leurs secrets qu'au milieu du 19e siècle. Et ces monuments ont été déterrés qu'après d'immenses efforts. Enfin, le prophète dit que comme les habitants de Thèbes ont cherché en vain à s'échapper en allant d'un endroit à l'autre face à l'avance de la mer Assyrienne, ceux de Ninive seront dans la même situation devant leur ennemi. Effectivement, pendant le règne de Ninive, les Assyriens tentent bel et bien une sortie, mais sont stoppés. Ils doivent alors rebrousser chemin et s'enfermer derrière les murailles de leur ville. Je continue. Toutes tes forteresses sont comme des figuiers, tout chargées des premières figues. À la moindre secousse, elles se mettent à tomber dans une bouche prête à manger. Au printemps, les figues de la première récolte se détachent très facilement. Quand elles sont à point, il suffit de toucher la branche et elles tombent toutes seules. Pareillement, les murailles de Ninive vont s'effondrer d'elles-mêmes au bon moment et sans aucun effort de la part des assaillants. Et c'est ce qui est arrivé. La métaphore des figues mûres est utilisée par le prophète Ésaïe quand il annonce la chute de Samarie, capitale du royaume d'Israël des 10 tribus du Nord. Je lis le passage. Quant à la flore fanée qui orne sa parure et qui est située sur les sommets qui dominent les vallées plantureuses, elle sera comme une figue mûrie avant l'été. Celui qui l'aperçoit l'accueille sans tarder et l'avale aussitôt. Ce sont les Assyriens qui ont cueilli Samarie. Mais la ville a mis longtemps à mûrir, puisqu'il a fallu 3 ans de siège avant qu'elle ne tombe dans le giron des Assyriens. La durée sera la même pour Ninive. Je continue le texte. Considère tes troupes. Ce sont de faibles femmes, et les portes de ton pays sont pour tes ennemis toutes grandes ouvertes. Le feu a consumé tes verrous et tes barres. Les soldats assyriens sont toujours décrits comme des brutes épaisses, mais ce sont aussi des hommes courageux au combat. Cependant, comme ils seront impuissants de résister à l'assaut de leur ennemi, Nahum les compare à de faibles femmes. une métaphore qui apparaît plusieurs fois dans l'Ancien Testament quand l'Éternel veut juger un peuple. Les prophètes Ésaïe et Jérémie écrivent respectivement. En ce jour-là, les Égyptiens seront comme de faibles femmes. Ils trembleront et s'épouvanteront quand l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, agitera la main contre eux. Les guerriers de Babylone ont cessé de combattre. Ils sont restés à l'intérieur de la forteresse. Leur force est épuisée. Les voilà devenus comme des femmelettes. Nahum dit aux Assyriens que « les portes de ton pays sont, pour tes ennemis, toutes grandes ouvertes. » Les Assyriens essuient plusieurs graves défaites face aux Mèdes, puis aux Babyloniens et enfin face à leur coalition avec les Scythes. L'armée assyrienne doit alors se replier et se réfugier dans Ninive. L'heure est grave parce que tous les accès qui permettent à la Confédération armée d'accéder au cœur de l'Empire ne sont plus gardés. Voilà pourquoi les portes du pays sont toutes grandes ouvertes. Cependant, réfugiés dans leur capitale imprenable, les Assyriens sont en sécurité, sauf s'il se produit un événement semblable au tremblement de terre qui renversa les murailles de Jéricho. On connaît la suite. Alors, parlant de Ninive, Nahum ajoute « Le feu a consumé tes verrous et tes barres ». On sait que quand les Assyriens assiègent une ville, ils mettent le feu aux grandes portes en bois qui enferment l'accès. Mais les Mèdes et les Babyloniens n'ont pas eu à recourir à ce moyen parce que Dieu leur a livré Ninive sur un plateau d'argent, pour ainsi dire, en renversant ses murailles. Ce n'est qu'une fois la ville prise qu'elle fut détruite par le feu. Et effectivement, ceux qui ont fouillé ces ruines ont trouvé une très grande quantité de charbon de bois et de matériaux carbonisés, et tout ce qui ne pouvait pas brûler portait les marques d'un feu intense et prolongé. De toute évidence, les toits des bâtiments se sont effondrés sous l'effet d'un violent incendie qui a calciné et réduit en poussière même les grosses plaques en gypse des plafonds qui faisaient presque 4 mètres de côté et 10 centimètres d'épaisseur. Je continue. Puise de l'eau en vue du siège, renforce ta défense. Va prendre de l'argile, pétris la glaise, mets en état ton four pour fabriquer des briques. Avec une ironie mordante, Nahum exhorte les Assyriens de faire tout leur possible pour se défendre. Comme toutes les nations, la Syrie compte sur les villes fortifiées ainsi que leurs garnisons disséminées un peu partout sur leur territoire pour arrêter un ennemi éventuel. Mais les places fortes sont toutes tombées et les troupes qui les défendent se sont révélées impuissantes. Comme je l'ai dit, après avoir perdu plusieurs batailles en plaine, les Assyriens s'enferment dans leur capitale comme un oiseau dans sa cage. Étant donné qu'ils ne s'attendaient évidemment pas à une telle catastrophe, ils sont pris au dépourvu et tentent, à la désespérée, de se préparer à soutenir un siège. Dans les temps antiques, ainsi qu'au Moyen-Âge, quand une ville est assiégée, le besoin le plus urgent est d'être pourvu d'eau potable. Pour cette raison, Ézéchias, roi de Juda, fait construire un réservoir et un aqueduc pour approvisionner Jérusalem en eau en cas de siège. Mais de tels travaux n'ont pas été nécessaires pour Ninive, car la ville est très bien alimentée par un affluent du fleuve Tigre, le Cocher, qui traverse la ville. Cependant, le risque est que les assiégeants décident d'en détourner le cours. En cas de siège, après l'eau, le deuxième souci est de s'assurer que les murailles d'enceinte restent en bon état. Et qu'un ennemi endommage, il faut les réparer au plus vite. Et pour cela, il est nécessaire d'avoir à sa disposition un stock de briques prêt à l'emploi. La terre des environs de Ninive est une glaise de très bonne qualité. On y ajoute de la paille pilée et on la moule en briques qui sèchent au soleil et durcissent en quelques jours. Puis elles sont utilisées pour construire des maisons ainsi que les murs défensifs de la ville. Cependant, les fouilles réalisées dans les ruines de Ninive ont révélé que les Assyriens possédaient aussi des fours pour sécher et durcir les briques plus rapidement en cas de besoin d'urgence, comme lors d'une brèche faite par un ennemi. Nahum ordonne donc aux habitants de Ninive de mettre en état ces fours qu'ils n'ont jamais utilisés jusqu'ici, puisqu'il n'y avait personne susceptible de les inquiéter. Mais les Assyriens ne peuvent plus se reposer sur leurs lauriers, car ils vont bientôt devoir faire face à un siège. Le verbe pour « renforce ta défense » est traduit ailleurs par « réparer ». Les ruines de Ninive ont révélé l'existence d'un mur de renfort construit en toute hâte pour combler les brèches ouvertes dans la muraille par un attaquant ennemi, c'est-à-dire les forces combinées des Mèdes, des Perses et des Scythes. Quand Nahum prononce son oracle, non seulement l'empire assyrien ne craint rien ni personne, mais il vient d'écraser l'Égypte. À vue humaine, il est alors impossible de penser que la domination tyrannique de la Syrie prendrait fin 30 ans plus tard. Pour être dans le vrai et réussir dans ce qu'on entreprend, mieux vaut croire et obéir aux préceptes de la parole de Dieu plutôt que d'embrasser la sagesse trompeuse des hommes.